vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour, Stéphane aux manettes, et je vais vous parler dans ce Ciné Plus d'un personnage qui, on peut le dire, est le précurseur de la science-fiction. Je veux parler d'un Français, mais oui, les Français sont pas toujours aussi nuls qu'on le croit. Il s'agit de Georges Méliès. Georges Méliès, qui est donc né en 1861 et il est mort en 1938. Mais je vais pas vous parler de Georges Méliès comme ça. Je vais simplement vous parler de ce qu'en dit Martin Scorsese avec le film Hugo Cabret, que le Martin Scorsese a réalisé en 2011, et c'est un film qui, au fond, permet, j'ai envie de dire que l'objectif et la finalité de ce film de Hugo Cabret, qui est adapté d'ailleurs d'un roman, c'est tout simplement de parler de Georges Méliès. Il faut que ce soit les Américains qui nous expliquent qu'en France, on a été formidables. Alors, en deux mots, Hugo Cabret, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Donc Hugo Cabret, c'est son nom, qui a perdu son père, qui a perdu aussi sa mère, mais qui se retrouve... Et son père est tout d'un coup vampirisé, enfin par un feu, enfin bon, etc., etc. Et donc il se retrouve seul avec son oncle, qui est un poivreau fini et qui l'abandonne, mais il loge, parce qu'ils ne savent pas où loger, dans une grande horloge de la gare Montparnasse. Et donc de son père, il n'a qu'une marionnette, en ferraille, c'est tout ce qui lui reste. Son père avait trouvé cette marionnette chez un brocanteur et il avait commencé à la réparer. Il n'avait pas fini, évidemment. Et Hugo n'aura de cesse, livré à lui-même, vivant donc dans cette gare, dans cette horloge, ce qui est d'ailleurs un décor tout à fait remarquable. C'est lui qui va remonter de la grande horloge, qui veille à ce qu'elle donne toujours l'heure. Donc vous voyez, le temps dans le film est très important. Eh bien, Hugo pense que s'il répare cette marionnette qui a la forme d'un personnage, cet automate, il pense que cet automate va lui livrer un message de son père. Alors, il va avoir une amie, Isabelle, qui, elle aussi, il la trouve dans la gare, parce qu'il erre dans la gare comme ça. Alors, il y a d'autres aventures, mais moi, je me focalise sur Georges Méliès, donc je ne vous parle pas vraiment du film Hugo Cabret dans toute sa totalité. Eh bien, il a une amie qui s'appelle Isabelle, qui est un peu plus âgée que lui, et c'est une jeune fille qui était aussi orpheline et qui a été récupérée par son oncle et sa tante, ou sa marraine, je crois, ou son oncle, je crois que c'est son oncle, puisqu'elle l'appelle Tonton Georges. Tonton Georges, il tient une boutique de jouets dans une gare. Et on va s'apercevoir, je ne vous déflore pas le sujet parce qu'en même temps, c'est le film va bien au-delà de l'histoire qu'il raconte. C'est la vraie histoire de Georges Méliès qui, à un moment, après la guerre de 14-18, il était en difficulté, les gens allaient moins voir ses films. Et donc, il va tout vendre, tout brûler, tout détruire et acheter un magasin de jouets, en effet, dans la gare de Montparnasse. Donc, c'est vraiment une histoire complètement vraie. Alors, pour vous montrer l'importance du cinéma, je vous propose d'aller directement dans la séquence 5 du film de Martin Scorsese et Hugo Cabret, donc je le répète, film réalisé en 2011, où tout d'un coup, il va expliquer l'importance du cinéma. Si vous voulez, on l'écoute tout de suite. Disons que le cinéma est une machine à rêve et on va le comprendre.
Robin des Bois, j'ai vu le film avec Douglas Fairbanks. Tu l'as vu, toi ?
Je ne suis jamais allée au cinéma.
C'est vrai ?
Est-ce si consternant ?
Tu n'as jamais été au cinéma ? Jamais, jamais ?
Papa Georges ne me laisse pas y aller. Il est très strict à ce sujet.
Moi, j'adore le cinéma. Mon père m'y emmenait pour tous mes anniversaires.
Hugo, est-ce que ton père est décédé ?
Je n'ai pas envie d'en parler.
Les deux enfants déambulent dans une sorte de bibliothèque avec des
Isabelle.
Piles de livres.
Tu veux vivre une aventure ?
Gros plan sur un titre, enfin sur le cinéma, le festival du film muet, c'est en ville. Donc voilà l'aventure qu'ils vont avoir, c'est aller au cinéma. Ils passent évidemment devant toutes sortes d'affiches qui mettent en valeur Charlie Chaplin, Et comme il est très très bricoleur, il ouvre la porte qui était interdite pour aller subrepticement parmi les spectateurs. Ils sont dans la salle de cinéma, donc projection d'un film, et c'est Harold Lloyd qui, vous le savez, c'est classique, il essaie de grimper, de fuir, parce qu'il est poursuivi, il a très peur, vous le savez, Harold Lloyd avec son petit chat canotier, ses petites lunettes rondes, et il va s'agripper aux horloges, enfin aux aiguilles d'une montre. Alors il y a un champ contre champ où on voit le film d'Harold Lloyd et les deux enfants qui sont effrayés par ce film. Voilà, et là il est accroché aux aiguilles évidemment, donc il est plus une heure moins le quart, il est 2h15. Tous sautent, il est là suspendu dans les airs. Voilà, et au moment précis où tout d'un coup ils sont vraiment très inquiets, c'est le directeur du théâtre, du cinéma, qui vient tout d'un coup les jeter. Et là, on passe là encore devant des tas d'affiches, avec notamment Judex de Louis Feuillade, etc., etc. Là, ils sont dans la rue, il fait froid, il y a de la neige, et ils continuent.
J'en sais rien, il ne me l'a jamais dit. Je suis sûre que mes parents m'auraient laissé.
Ils sont où, tes parents ?
Ils sont morts, quand j'étais bébé. Mais papa Georges et maman Jeanne sont mes parrains, alors ils m'ont recueillie. Ils sont vraiment très gentils, tu sais. Sauf pour le cinéma.
Moi, mon père m'emmenait tout le temps au cinéma. Un jour, il m'a raconté le premier film qu'il a vu. Il est entré dans une salle obscure, et sur un écran blanc, il a vu un obus voler et entrer dans l'œil de la lune. Ouais, comme ça, direct.
C'est vrai?
Il disait qu'il avait l'impression de voir ses rêves en plein jour. C'était notre endroit à nous, le cinéma. On y allait ensemble et on regardait les images. Ma mère nous manquait un peu moins.
Tu penses beaucoup à lui, n'est-ce pas?
Tout le temps.
Hugo, où est-ce que tu habites?
Alors là, il se rapproche d'elle, et puis il va se tourner et montrer là, et là on ne sait pas très bien où c'est, mais nous le savons, spectateurs, c'est là. La grande horloge de la gare de Montparnasse que l'on aperçoit au loin. Alors évidemment, le film de Scorsese est intéressant, là nous sommes à l'intérieur. Voilà,
alors je continue
nous sommes à
faire.
L'intérieur de la gare. Donc là, je passe un petit peu, puisque je me focalise, comme je vous l'ai dit, sur Georges Méliès. Et il se trouve qu'il va découvrir que pour que sa petite marionnette en ferraille marche, il faut une clé. Et cette clé, elle est comme une forme de cœur. Et comme par hasard, parce qu'évidemment, les choses se recoupent, il découvre que suspendu au cou d'Isabelle, il y a une clé en forme de cœur. Ben oui, forcément, puisque on va découvrir que la marionnette a été construite par Méliès, et donc cette clé, c'est lui qui l'avait faite. Donc voilà, alors tout d'un coup, il a la clé et il va essayer évidemment de voir si ça peut marcher. On va passer tout de suite à la séquence qui suit pour aller voir si ça peut marcher. Nous sommes au chapitre 6. Donc là, on est dans les antres de l'horloge de la gare de Montparnasse.
C'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être Jean Valjean.
Référence évidemment à Victor Hugo. Là, il y a beaucoup de fumée.
Je manque de superlatifs.
C'est filmé en plongée. Et là, il découvre la marionnette en ferraille qui a effectivement une tête.
Qu'est-ce que c'est?
Et tout le corps est en ferraille.
C'est un automate. Mon père le remettait en état avant de mourir.
Isabelle touche la tête de la marionnette, de l'automate.
Mais pourquoi ma clé s'adapterait à la machine de ton père?
Gros plan sur la serrure en forme de cœur.
Il a l'air triste. On a l'impression qu'il attend quelque chose. Mais quoi?
De refonctionner. De faire ce qu'il est censé faire.
Qu'est-ce qui se passera quand tu l'auras remonté?
Ça, je l'ignore.
Elle lui donne sa clé. Hugo prend cette clé. Un premier plan. Très gros plan avec cette clé qui est capitale pour
Qu'est-ce
Hugo.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je sais que c'est idiot. Mais je crois qu'il va me transmettre un message de la part de mon père.
Il se rapproche. Il tourne la manivelle de l'automate et il pose, très gros plan, la clé, il tourne. Ils attendent, ils sont face à l'automate et le mécanisme se met à fonctionner. On voit à l'intérieur de du thorax de l'automate des tas de roues dentées qui commencent à bouger. Le montage, évidemment, est un montage parallèle, un champ contre champ, entre les enfants qui regardent cette machine qui commence à évoluer. On voit la main qui se bouge. Il y a un gros plan sur les doigts en fer qui tiennent un stylo. La main avance. Sourire, évidemment, de Hugo, qui a l'air très heureux de voir que ça a l'air de marcher. Et la main commence à tracer un trait sur le papier. Puis des petits signes. Pour l'instant, ça amuse les enfants. On est toujours en très gros plan à la fois sur le visage, là sur le stylo qui écrit. Mais ça paraît un peu dispersé, c'est dans tous les sens. Aucun mot ne s'écrit, ce sont juste des petits gribouillis. Incompréhensible. Et là, alors que l'automate est en train de tirer quelques petits traits, la machine s'arrête. Tout est arrêté. Et évidemment, désarroi de Hugo.
C'était ridicule de croire que je pouvais le réparer. Il est cassé! Il a toujours été cassé!
Hugo, effondré dans un fauteuil, pleure,
Hugo,
à côté d'Isabelle.
Écoute, ça doit pas se finir ainsi, tu peux le réparer.
Mais non, tu ne comprends rien. J'ai cru que si j'arrivais à le réparer, je ne serais plus si seule.
Et là, tout d'un coup, alors qu'il est vraiment effondré dans son fauteuil...
Hugo, regarde! Regarde, il continue!
L'automate se remet à marcher. Il continue à tracer sur la feuille blanche des tas de signes, écrivant des cercles.
Il n'est pas en train d'écrire.
Des traits.
Il dessine.
Il dessine et petit à petit, on le voit arriver sous sa plume un obus qui rentre dans, évidemment, l'œil de la lune. Gros plan sur le dessin.
C'est le film que mon père a vu.
Et là, maintenant, l'automate se remet à écrire et il écrit sous la lune, sous le dessin de la lune, qui vient de recevoir en plein œil l'obus. La main écrit, on le voit écrire à l'image, Georges Méliès. Et il rajoute un petit accent sur le mais, M-E-L-I-E-S. Et à ce moment-là, on a un gros plan sur Isabelle, c'est à son tour d'être intriguée.
Georges Méliès? Papa Georges s'appelle comme ça? Pourquoi la machine de ton père signe avec le nom de Papa Georges?
Je n'en sais rien du tout.
Là, il y a un petit regard entre Hugo et
l'automate. C'était bien un message de mon père. Il faut qu'on découvre ce qu'il veut dire.
Voilà, alors évidemment, ils vont aller voir le grand-père, qui veut pas, parce qu'en plus de ça, sa femme, c'est Jeanne. C'est... Effectivement, Georges Méliès avait une femme qui s'appelait Jeanne et qui l'a fait jouer dans tous ses films. Et elle dit non, ça, il ne voudra pas, il ne veut pas qu'on reparle du passé. Puis ils vont finir par le faire, ça se terminera par un gala, enfin, etc., etc. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur Georges Méliès. Oui, c'est quelqu'un qui a été un grand créateur dès l'âge de 26 ans à peu près jusqu'à 63 ans. C'était d'abord un magicien. Et il était directeur de théâtre, il avait fait de la magie, directeur de théâtre, créateur de costumes, de décors, metteur en scène. Il a même été, je crois qu'il avait créé l'Académie de Prestidigitation, c'est ça? Je ne sais pas, vous avez compris? Bon voilà, je suis sous l'effet de la magie, sans doute, j'arrive pas à dire ce mot, c'est pas grave. Et alors, donc il était magicien. Et puis arrivent les Frères Lumière dans les années 1895. Et là, ils trouvent ça vraiment épatant, quoi, qu'on puisse filmer, projeter un film sur un écran. Et donc, il est allé voir les Frères Lumière. Il leur a demandé de leur vendre une caméra. Les Frères Lumière ont dit non. Enfin bon, la raison évoquée, c'était que le cinéma, ça ne durerait pas, ce n'était pas la peine. Enfin bon, bref. Mais Méliès, lui, ça l'intéressait. Et il a construit sa propre machine parce qu'il était très, très astucieux. Il a créé donc sa propre machine qui lui a permis, effectivement, de faire des films. Et à partir de 1912, il va faire, mais je crois que c'était 520 films. Ce sont que des courts-métrages qui font une à 20 minutes. Et c'est lui qui a créé, au fond, tous les métiers de la profession. Il y avait des décorateurs, il y avait des costumiers, il y avait des perruquiers, il y avait des directeurs de la photo, il y avait des ingénieurs du son, enfin voilà. Et donc, c'est lui qui a fait les premiers films de science-fiction, notamment avec cette fameuse Lune. C'est son voyage, c'est son film le plus célèbre. C'est le voyage dans la Lune. Et il a tout inventé, parce que c'est lui qui a inventé aussi les fondus enchaînés. Vous savez, quand il y a une image qui disparaît, mais très lentement, et l'autre apparaît très lentement aussi, ce qu'on appelle des fondus enchaînés. Il a fait des surimpressions, il a fait des gros plans, des ralentis, des accélérés. Il a, d'une certaine façon, inventé la grammaire du cinéma. Et le problème, c'est que ça marchait du feu de Dieu jusqu'au jour où il y a eu, effectivement, 14-18, la guerre. Alors, c'est vrai qu'après la guerre... Les gens n'avaient pas trop l'esprit à se marrer. Il faut être en 2015 pour avoir envie de se marrer alors qu'on est dans des drames. Non, les gens n'avaient plus du tout... ils étaient un peu, comment dire, plus dans la réalité, enfin, etc. etc. Et donc, ils se retrouvent en 1925 très seuls, avec quasiment plus d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'il va tout détruire. Et pour acheter ce magasin de jouets à la gare de Montparnasse. Mais en revanche, des gens comme Hugo Cabret vont le redécouvrir et savoir que ce marchand de jouets, ben, c'est Georges Méliès. Et donc, ils vont le réhabiliter. Et ça se terminera évidemment par un gala. Je crois que c'est le 22 octobre 1931 qu'il y a un grand gala, salle Pleyel à Paris. On lui remet même la Légion d'honneur. Mais enfin, ça, c'est plus du tout un critère de qualité puisqu'on le donne à n'importe qui. Enfin, bref, passons, c'était juste une parenthèse. Mais je pense que de temps en temps, il faut savoir qu'on donne effectivement la Légion d'honneur à n'importe qui. Alors, dis-moi, Stéphane, est-ce que nous pouvons... Où est-ce qu'on en est de l'ami du minutage? Bon, alors voilà. Alors, écoutez, donc, il nous reste un peu de temps. On va donc aller chez Papa Georges. Séquence, je vais essayer de chapitre 9.
La bibliothèque de l'Académie du cinéma.
Pardon?
La bibliothèque de l'Académie du cinéma. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les films. Deuxième étage. Quatrième rangée, troisième section, et... Oui, dernière étagère. Inventer le rêve. Par René Tabar. L'histoire des premiers films.
Donc les deux sont dans la bibliothèque du cinéma, ils ouvrent un livre en effet de René Tabar. Et qu'est-ce qu'ils découvrent, la première chose?
L'un des tout premiers films présentés au public fut « L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat », ce qui, comme le suggère le titre, ne montrait rien d'autre que l'entrée d'un train en gare.
on a l'image, évidemment, du film des Frères Lumière.
Lorsque le train a foncé sur l'écran, les spectateurs se sont mis à hurler parce qu'ils croyaient que le train allait les écraser. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant.
Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant.
Là, on passe dans une image et on voit en effet à nouveau un film au cinéma. C'est la sortie des usines Lumière.
Ce qui avait commencé comme une nouvelle attraction s'est vite transformé en quelque chose d'énorme quand les réalisateurs ont découvert qu'on pouvait s'en servir pour raconter des histoires.
Et là, on a toute une série de films muets de toutes les époques, aussi bien français qu'américains. Et là, c'est la séquence avec Buster Keaton, le mécano de la générale. Il est assis sur la Vous savez que le mécano de la générale, c'était une locomotive. Là, il y a des photos de Louise Brooks, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks. Et on tombe sur le gros plan de la Lune de Méliès, le voyage dans la Lune.
Le cinéaste Georges Méliès fut l'un des premiers à réaliser que les films avaient le pouvoir de capturer les rêves.
Ce grand pionnier est malheureusement décédé durant la Grande Guerre.
Décédé durant la Grande Guerre.
Vous êtes intéressé par Méliès ?
Et c'est Tabar qui est là.
Oui.
Celui qui a écrit le livre.
C'est autorisé.
Ah oui.
Ils s'en rendent compte parce qu'ils voient la photo qui est dans le livre de René Tabar.
C'est mon parrain que vous citez. Et il est en très bonne santé. Je vous remercie bien pour lui.
Mais ce n'est pas possible.
C'est la vérité, monsieur. Je vous jure.
Pourquoi devrais-je vous croire ?
Parce que c'est la vérité.
Méliès est en vie ? Venez avec moi.
Et donc là, il rentre dans un musée, René Tabar.
J'ai une véritable passion pour ton parrain.
La caméra circule.
C'est un grand cinéaste.
Travelling latéral et.
Le voici en plein travail dans son studio.
Donc il montre des photos.
Et ceci est un prospectus de ses spectacles. Ça, c'est la mystérieuse pendule au cadran de cristal fabriquée par son mentor, Robert Houdin. Et ceci est l'une de ses caméras de l'époque.
Et là, ce sont des photos de ses films.
Il était magicien ?
Oui, il a commencé sur scène.
Comment a-t-il commencé à faire des films ?
Personne ne le sait vraiment.
Il a l'air tellement heureux.
Professeur Tabar, auriez-vous, enfin peut-être, envie de le rencontrer ?
Oh. Mais c'est-à-dire que je l'ai déjà rencontré. Mon frère travaillait comme menuisier sur les tournages de Méliès.
Voilà, c'est ce qui explique évidemment la raison pour laquelle il s'est intéressé à Georges Méliès.
J'avais l'impression que tout cela sortait d'un rêve.
Et donc là, il y a un flashback dans le film, et on montre en effet le studio, parce qu'il a aussi créé un studio.
La lumière nécessaire au tournage entre par tous les côtés. Mais à mes yeux, c'était surtout un château. Un château enchanté.
C'est une grande serre dans laquelle il y a tous les... Et là, on voit effectivement tous les effets spéciaux utilisés par Méliès. Au premier plan, un aquarium avec des poissons, et derrière, des personnages qui circulent. Donc ça donne quelque chose de fantastique avec des costumes incroyables. Donc effectivement, ça montre bien que le cinéma, c'est l'illusion. Donc là, on est dans les studios, il y a toute une série de gens qui circulent. Et on voit la caméra. Voilà. Et il faut rappeler que quand même, la caméra, c'était à l'époque, on tournait la manivelle. Hein, pour faire défiler la pellicule. Et là, il y a Georges Méliès qui est avec René Tabar quand il est enfant.
Si tu te demandes parfois d'où viennent tes rêves, regarde autour de toi. C'est ici qu'ils sont créés.
Mesdames et messieurs, le soleil va se coucher. Chevalier en position, homard en position, sirène en position, ça tourne.
Et donc là, on est en plein décor de rêve, effectivement.
Au final, il a fait plus de 500 films. Il était incroyablement célèbre à cette époque.
Mais pourquoi a-t-il arrêté ?
Jusqu'à aujourd'hui, j'étais persuadé que ton parrain était mort. Il y a eu tant de morts à la guerre.
Est-ce qu'on pourrait voir certains de ses films ?
J'aurais bien aimé. Mais le temps n'est pas très clément avec les vieux films.
Et là, effectivement, il montre une boîte 35 mm.
C'est le seul à notre connaissance qui ait survécu. Sur des centaines, il n'en reste qu'un. Mais encore aujourd'hui, ce film est un chef-d'œuvre.
Voilà. Donc on peut arrêter là.
Il faut convaincre Tabar de montrer le film à
voilà.
Papa.
Voilà. Donc ils vont effectivement essayer de montrer le film à Papa Georges, donc l'oncle, enfin le parrain de. D'Isabelle, et puis et puis en plus de ça, sa femme Jeanne sera contente quand même de se revoir quand elle était jeune. Voilà, et tout ça va se terminer évidemment à happy end. Bon, voilà, donc si vous voulez, c'était ce qui m'intéressait surtout, c'est de vous parler de Georges Méliès pour vous rappeler qu'effectivement, le cinéma c'est quand même une affaire de Français, mais une affaire. Qui était quand même d'une qualité extrême, quoi. C'est-à-dire avec, c'était très inventif, et on était loin de la réalité, et on faisait appel à l'imaginaire. Et donc le cinéma, ça doit rester, on l'oublie un peu souvent, c'est le 7e art, quoi. Voilà. Donc, écoutez, c'était juste un petit aperçu. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc, Stéphane, c'est bon. Bien, ben, en tout cas, je te remercie. Toujours aux commandes, voilà, discret mais présent. Et eh bien, nous, on se reverra, on va se réentendre la semaine prochaine. Donc, écoutez, en attendant, allez au cinéma.